Le journal Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Faisons tout pour freiner l'épidémie. Emmanuel Macron, ce soir sur Twitter, ajoute que les heures que nous vivons sont cruciales. « J'ai confiance en nous », explique le chef de l'État. Les nouvelles restrictions annoncées hier soir pour éviter le confinement concernent un renforcement des contrôles lors du couvre-feu, la fermeture des frontières ou encore la fermeture des grands centres commerciaux. Le rush des derniers achats, reportage au Halle à Paris dans un instant. Des incidents graves à Marseille avec les supporters de l'OM. Le centre d'entraînement du club a été vandalisé. 25 personnes ont été interpellées. Un joueur de l'OM a été frappé. Le match de ce soir contre Rennes est annulé. Les supporters marseillais sont mécontents des résultats de leur équipe. Dans ce journal également, nouvelle journée de mobilisation contre la proposition de loi sécurité globale. Les manifestations n'ont pas fait le plein. Et puis notre rendez-vous du samedi 19h avec Ma Vie Connectée et Christine Siméon. Facebook et la protection des données personnelles. La météo pour demain. Temps pluvieux est très agité. 24 départements en vigilance orange, vague submersion ou crue. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Une journée de samedi consacrée aux dernières courses avant fermeture. Les grands centres commerciaux non alimentaires vont donc fermer ce soir pour au moins 4 semaines et tout le mois de février au minimum. Ces galeries marchandes de plus de 20 000 mètres carrés représentent un risque de recrudescence de l'épidémie de coronavirus en favorisant un brassage des populations, selon Jean Castex, le Premier ministre. Dernière chance aujourd'hui pour réparer un placard, faire les soldes ou trouver une ampoule. Le rush des derniers achats pas très Covid. Exemple au Forum des Halles, l'emblématique centre commercial de Paris. Reportage Kevin Dufraîche.
Ils sont nombreux à monter les escaliers vers la sortie, les bras chargés de sacs de vêtements.
Bah oui, du coup, je suis venu profiter des soldes avant que ça ferme. Ouais.
Robin, parisien de 23 ans, a su être patient.
Ouais, il y a quand même du monde et il y a des files pour rentrer dans les magasins. Alors là, on se croirait un peu à Disneyland, quoi.
À l'inverse, Chloé, venue de la banlieue est de Paris, a rapidement rebroussé chemin.
C'est rempli. Franchement, c'est vraiment rempli. Du coup, j'ai été faire 2-3 achats vite fait et je pars directement parce que c'est limite oppressant, en fait.
Plus d'une demi-heure d'attente pour rentrer dans certains magasins. Souvent, il n'y a pas 2 mètres entre chaque client. On fait ses courses en famille. Il y a du brassage. Bref, comme diraient Emma et Charlotte...
Pas très Covid.
Ouais, c'est pas très Covid.
Les deux jeunes femmes originaires de Reims avaient prévu de longue date cette journée shopping à Paris. Alors, c'est un peu la douche froide pour Emma.
Il y a des queues, elles sont interminables. Du coup, on n'a pas été dans tous les magasins parce que Zara, c'est blindé. H&M, pareil. Victoria's Secret, pareil.
Et elle regrette la fermeture des grands centres commerciaux.
Vu que tout est fermé, les boîtes, elles sont fermées. On peut plus aller en soirée, ni dans les bars, les restaurants, tout ça. Faire les magasins, c'est un peu la dernière chose qui nous reste, quoi. Du coup, c'est un peu dommage.
Dernière cohue, elle est dans les transports en commun pour rentrer à temps avant le couvre-feu.
Un reportage à Paris de Kevin Dufraîche. La fermeture des grands centres commerciaux fait donc partie des nouvelles restrictions pour éviter un confinement avec davantage de contrôles lors du couvre-feu à 18h, la fermeture des frontières et les tests PCR négatifs obligatoires. Selon Jacques Cressel, cette fermeture des galeries marchandes est un moindre mal, dit-il. Le président de la Fédération du commerce et de la distribution est soulagé que les petits commerces soient épargnés. On en a fini, selon lui, avec cette distinction mal acceptée de commerce essentiel et non essentiel. Jacques Cressel avec Maxime Debs.
Ça permet de maintenir globalement un nombre de magasins ouverts beaucoup plus important qu'avant. Il y a 300 000 magasins en France, 25 000 vont fermer, donc ça veut dire que 275 000 vont rester ouverts. On n'est plus du tout dans la distinction essentielle-non-essentielle qui était une distinction incompréhensible pour les Français. Dire aujourd'hui qu'en plein hiver, on n'avait pas le droit d'acheter des collants, des bas ou des chaussettes était naturellement incompréhensible. Je pense que c'est plus facile d'expliquer que tel ou tel centre commercial est fermé que d'expliquer aux Français qu'on peut acheter des pyjamas jusqu'à 2 ans, mais qu'à l'âge de 4 ans, ça n'est pas possible. On voit bien que là, on était rentré dans quelque chose qui était absolument incompréhensible pour l'ensemble des consommateurs. Et on est très heureux qu'on soit sorti de ceci qui, je crois, n'était compris par personne.
Jacques Cressel, président de la Fédération du commerce et de la distribution. Et pendant ce temps, une équipe d'experts de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est en Chine, à Wuhan, pour une enquête difficile sur l'origine de l'épidémie. Les experts de l'OMS, tout juste sortis de 14 jours de quarantaine, se heurtent à une certaine mauvaise volonté de la Chine. Au programme aujourd'hui pour l'OMS, la visite d'un hôpital et d'un musée. Simon Le Plâtre à Shanghai.
Au programme ce matin, visite de l'hôpital Jingyingtang, spécialisé dans les maladies infectieuses à Wuhan. Les inspecteurs de l'OMS ont rencontré des médecins et les premiers patients Covid recensés l'année dernière. Et puis cet après-midi, l'équipe n'est pas allée beaucoup plus loin. Juste en face de cet hôpital, il y a une salle d'exposition qui avait été transformée en centre de confinement pendant l'épidémie. Aujourd'hui, ce centre est devenu un musée avec une grande exposition qui retrace l'épreuve qu'a représenté le confinement pour Wuhan et qui ne lésine pas sur la propagande à la gloire du président chinois Xi Jinping. Mais on peut se demander quelle est la pertinence d'une telle visite pour des scientifiques censés enquêter sur l'origine de la pandémie. Dès le premier jour de terrain, le programme est en fait assez révélateur. La Chine n'a accepté cette enquête qu'à contre-cœur et entend tout faire pour limiter l'accès des scientifiques à des informations de première main.
Simon Le Plâtre à Shanghai, en retour en France avec le parquet de Paris qui a ouvert une information judiciaire cet après-midi après l'agression en mi-janvier du jeune Yuri, 15 ans, à Beaugrenelle. Une information judiciaire pour tentative d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat. 9 personnes, 8 mineurs et un majeur ont été déférés devant un juge. Le parquet a requis le placement en détention pour 6 mineurs et pour le jeune majeur. Nouvelle journée de mobilisation contre la proposition de loi sécurité globale avec des rassemblements dans plusieurs villes. Cette proposition de loi qui prévoit notamment de pénaliser la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre est combattue depuis novembre dernier, notamment par les syndicats de journalistes et les défenseurs des libertés publiques, auxquels se sont joints des gilets jaunes et des teufeurs, les adeptes des free parties, ces réunions festives. Dans le cortège parisien aujourd'hui, un peu moins de monde. Vincent Lanier, secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes, au micro de Yann Gallic.
C'est vrai que ça a été plus difficile de remobiliser en janvier, alors qu'en novembre et décembre, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont défilé contre ce texte sur la sécurité globale. Tout ça n'a pas changé, hein. Il y a un certain nombre de mesures liberticides. Nous, au départ, on était, en tout cas les syndicats de journalistes, positionnés sur l'article 24, basé sur un délit d'intention, c'est-à-dire qu'on interdit aux journalistes et aux citoyens de filmer les forces de l'ordre en considérant qu'il y a une intention malveillante. Il y a également l'utilisation possible des drones de surveillance. Il y a aussi dans cette loi de sécurité globale la possibilité d'utiliser les caméras piétons pour les forces de l'ordre, sous couvert de lutter contre le terrorisme, lutter contre la délinquance, protéger les policiers, etc. On est en train vraiment de fragiliser la démocratie.
Vincent Lanier avec Yann Gallic. On a appris aujourd'hui la mort de l'écrivain Michel Lebris, fondateur du festival Étonnant Voyageur. Michel Lebris était âgé de 77 ans, tour à tour journaliste, producteur et éditeur. Il était aussi l'un des fondateurs du journal Libération, Jacqueline Pétrose.
C'était un homme de conviction qui aimait les mots et savait s'en servir pour convaincre et agiter l'imagination. Michel Lebris était un Breton du Finistère, avec la mer et la littérature chevillées au cœur, comme il le racontait en 2008 sur France Culture.
Dans le grondement de la mer, il y a toute la puissance de destruction du monde dans les tempêtes, toute la puissance de création du monde aussi, et ce mystère que ces deux puissances sont la même. Et tout d'un coup, là, il y avait des auteurs, des écrivains, et les écrivains qui me disaient qu'ils tournaient eux aussi autour de ce mystère-là, qui était le mystère même du monde.
Sa passion des mots a forgé sa vie. Diplômé d'HEC en 67, il est d'abord rédacteur en chef de Jazz Hot, puis s'engage politiquement. Directeur de La Cause du Peuple, journal de la gauche prolétarienne de Jean-Paul Sartre, il fera 8 mois de prison en 71. Il participe ensuite à la fondation de Libération avec Serge Julie. Les mots et les grands espaces toujours. Éditeur chez Payot, il fait alors découvrir Nicolas Bouvier, Ella Maillard ou Anita Conti. Lui, le passionné flamboyant de Louis Stevenson ou Jack London. L'amour de l'aventure, il le partagera avec le grand public en créant un festival du monde, celui des étonnants voyageurs de Saint-Malo, où se pressent depuis 30 ans tous les amoureux de l'ailleurs. Michel Lebris, écrivain, savait aussi nous entraîner dans ses pas à la suite des chercheurs d'or ou des pionniers du cinéma, comme avec le monumental Kong en 2017. En 2010, Michel Lebris avait publié un dictionnaire amoureux des explorateurs, lui qui aujourd'hui vient de prendre le large.
Jacqueline Pétrose, et vous pourrez retrouver sur notre site franceinter.fr une page consacré à Michel Lebris, ainsi que l'émission L'Heure Bleue que lui avait consacré Laure Adler. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméon et Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir Frédéric.
C'était cette semaine, c'était la journée internationale de la protection des données personnelles et vous vous êtes intéressée au cas de Facebook. Cette semaine, le réseau social a fait circuler des tutoriels pour aider les internautes à y voir plus clair sur l'utilisation de leurs données personnelles.
J'ai suivi ces petites vidéos de quelques minutes, smartphone en main, et c'est vrai, les réglages conseillés s'avèrent utiles et salutaires. J'ai pu vérifier quels sites ou applications que j'ai déjà visités ont l'œil sur mes activités Facebook. J'ai pu d'ailleurs autoriser ou pas la reconnaissance faciale et la localisation permanente de mon appareil.
Si c'est donc si simple, pourquoi tant de polémiques finalement, Christine ?
Vous avez raison, Facebook a mis en place des raccourcis pour faire des réglages, ça va vite, mais ça ne fait pas tout le ménage et ça ne dit pas tout. Si vous prenez vraiment la peine de lire toutes les pages consacrées à l'utilisation des données qui se cachent derrière l'icône engrenage de votre page, eh bien vous n'aurez pas assez d'un confinement pour tout comprendre. C'est ce que regrette par exemple Suzanne Vergniol, juriste spécialisée.
Alors effectivement, il y a une réelle difficulté quant à l'accessibilité de ces paramétrages. C'est pour ça que c'est très important de savoir quelles sont les données qui sont collectées par défaut. L'entreprise Facebook collecte par défaut beaucoup, beaucoup de données, que ce soit de ses utilisateurs ou de ses non-utilisateurs. Elle réussit par le biais de boutons j'aime qui sont placés sur des sites tiers à récupérer des informations des visiteurs de ces sites tiers. C'est difficile pour une personne qui aujourd'hui navigue sur Internet d'échapper à cette collecte insidieuse de ces données.
Et Facebook, Christine, n'en fait pas tellement mystère. D'ailleurs, la nouvelle réglementation européenne l'oblige à le dire.
Eh oui, alors, que faire à part fermer son compte, tout simplement, ou pire, fuir Internet? Non, nous dit Suzanne Vergniol, il y a des centaines de lieux vertueux ou alternatifs, des moteurs de recherche qui peuvent faire écran, mais l'enjeu pour demain, c'est que Facebook et d'autres ne nous cantonnent pas à des profils types et des caricatures de nous-mêmes.
C'est un peu tout l'enjeu aujourd'hui du droit des données à caractère personnel, c'est de s'assurer que les personnes ne rentrent pas dans des cases afin de leur appliquer des modèles algorithmiques issus de personnes qui leur ressemblent. Et là-dessus, il y a beaucoup de travaux qui existent, qui montrent les dangers pour la liberté d'autodétermination des gens d'utiliser ces prédictions algorithmiques.
Alors, malgré les tutoriels de Facebook, les raccourcis pour aller plus vite sur les réglages, ne nous faisons pas trop d'illusions.
Ma vie connectée, Christine Siméon, à retrouver sur franceinter.fr. Marseille et les incidents sérieux dont on parlait en titre devant le centre d'entraînement de l'OM. 300 supporters marseillais ont violemment pris à partie des policiers. 25 personnes ont été interpellées. Les supporters de l'OM sont mécontents des mauvais résultats actuellement du club. En direct de Marseille, on retrouve Jean Saint-Marc et les incidents sont sérieux, Jean, puisque le match ce soir face à Rennes a dû être reporté.
Effectivement, car comme vous l'avez dit, 300 supporters sont rentrés de force dans le centre d'entraînement de l'OM. Des ultras donc en colère, car l'OM n'a remporté qu'un seul de ses 9 derniers matchs. Vers 14h20 cet après-midi, 300 ultras ont lancé de nombreux fumigènes, feux d'artifice et pétards sur la commanderie, le siège social de l'OM. Certains ont réussi à rentrer dans le centre d'entraînement, profitant du désordre. 7 policiers ont été blessés. Le défenseur Alvaro González a été touché également lors de cette altercation. Il aurait reçu un projectile dans le dos. Rien de grave, nous confie son entourage. Selon d'autres sources, certains supporters ont également dégradé un bâtiment et des voitures. Les ultras ont été dispersés par la police. 25 supporters ont été interpellés, mais les autorités craignaient de nouvelles actions autour du stade Vélodrome, notamment sur le quart des joueurs. La Ligue de football professionnel a donc décidé de reporter la rencontre OM Rennes qui devait avoir lieu à 21h. Aucune date de report n'a pour l'instant été annoncée.
Jean Saint-Marc, en direct de Marseille, merci. Le temps pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski.
La vigilance est toujours de mise sur une vingtaine de départements en raison des crues. Vigilance également pour vagues submersion ce soir pour le Finistère et le Morbihan et en cours de nuit pour les littoraux de la Gironde au Pays Basque. Demain, les pluies les plus fortes vont se concentrer dans le quart sud-ouest entre les Pyrénées et le Massif central. Il va également beaucoup pleuvoir sur la Corse et le vent d'ouest sera très turbulent du secteur pyrénéen à la Méditerranée. Par contre, de la vallée du Rhône à la Provence et sur les Alpes, le temps sera sec et souvent lumineux, mais il faudra se méfier du risque d'avalanche, notamment sur les Alpes et le Massif central. Sur une large moitié nord, la matinée déjà bien chargée sera suivie en journée d'un temps faiblement pluvieux arrivant par l'ouest. Dans des températures fraîches, dans le nord-est et dans l'extrême nord, entre 0 degrés la nuit et 4 en journée, mais partout ailleurs, les valeurs vont rester beaucoup plus élevées que les normales.
Jean-Michel Golinski de Météo France.